Philippiens 4, 2 à 23. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblée en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Quand on côtoie quelqu'un très régulièrement, il est inévitable qu'on soit influencé par cette personne, qu'on soit imprégné en quelque sorte de sa manière de parler, de sa manière de faire. Un exemple assez classique et frappant, c'est quand on retrouve chez les enfants les expressions, les attitudes qu'on connaît déjà chez leurs parents, ou parfois c'est entre les frères et sœurs qu'on retrouve cela. Et c'est même vrai plus largement des gens qu'on côtoie régulièrement pendant des années. Et tenez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, à force de collaborer avec mon cher Paul Harrison depuis des années dans le cadre du culte du soir en particulier, eh bien, je me rends compte que parfois dans mes messages, je reprends telle expression, telle attitude qui vient droit de chez lui. Alors avec l'autre Paul, cela viendra aussi, mais la collaboration est plus récente, donc il faut me laisser le temps. Mais quand on est régulièrement en présence de quelqu'un, ça nous influence. Ça nous influence forcément. Maintenant, à quoi cela pourrait-il ressembler d'être imprégné de Jésus-Christ ? À la fin de sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul conclut, et mon sentiment en étudiant ce texte, c'est qu'il cherche à donner envie à cette petite communauté de la ville de Philippe, leur donner envie de vivre une vie imprégnée de Jésus. Ou peut-être, pour dire les choses un peu mieux, imprégné de l'Évangile, c'est-à-dire de Jésus, sa personne, mais aussi de son enseignement, de son œuvre, sa mort sur la croix, sa résurrection par laquelle il offre à tous ceux qui viennent à lui une vie nouvelle. Et en examinant ce que l'apôtre écrit aux Philippiens, nous allons être, nous aussi, amené à nous poser cette question. À quoi ressemblera notre quotidien si nous sommes imprégnés de l'Évangile? À quoi ressemblera notre quotidien si nous sommes imprégnés de l'Évangile? Et on va y répondre en trois temps, avec trois temps qui sortent assez naturellement de ce texte, même si, je précise, avec un texte aussi riche, on ne va forcément pas pouvoir tout voir, ce qu'on pourrait. Donc je vous demande d'avance de votre compréhension pour cela. Mais trois axes qui seront les suivants. D'abord, imprégnés de l'Évangile dans nos relations, et Paul va aborder surtout cela au début du texte, puis imprégnés de l'Évangile dans nos pensées, versets 5 à 9, et enfin imprégnés de l'Évangile dans nos circonstances. Imprégnés de l'Évangile dans nos relations, donc d'abord. Alors si on revient au premier verset du chapitre, qui était dans l'extrait de la dernière fois, Paul exhorte les Philippiens à tenir ferme dans le Seigneur. Tenez ferme dans le Seigneur. Et la suite nous montre une application directe de ce principe. Une façon de tenir ferme dans sa marche avec Dieu, c'est de rechercher activement de bonnes relations avec tous. Plus que de bonnes relations, des relations de paix, de la paix de Dieu avec tous. Et en premier lieu, avec les frères et sœurs dans la foi. Et là, l'apôtre Paul ne va pas hésiter à aller droit au but. On peut oublier, en lisant ces lignes, et si on connaît un petit peu ce texte, on peut oublier que cette lettre, elle est adressée à toute l'église de Philippe. Et donc, c'est quand même frappant de voir que l'apôtre Paul, en écrivant à toute l'église, va prendre tout le monde à témoin d'un conflit entre deux personnes qu'il va citer nommément, Évodie et Saint-Tiche, deux femmes de l'Église. Alors ce sont deux femmes qui sont décrites comme des femmes courageuses et zélées. Verset 3, elles ont combattu pour l'Évangile aux côtés de Paul, donc elles ont collaboré avec lui dans le ministère. Mais aussi valeureuses qu'aient pu être Évodie et Saint-Tiche, eh bien elles ne se verront pas épargnées une mise en cause publique de leur conflit. Je ne sais pas si vous imaginez un peu à la rue de Sèvres, hein, alors c'est vrai que le dimanche soir, on distribue rarement le bulletin en version papier, mais si vous voyez un petit peu le bulletin, que vous recevez bien sûr tous en PDF, et sinon écrivez à Paul Bourdois, il vous l'enverra. Imaginez si vous receviez le bulletin et qu'il y avait dans la colonne de droite eh bien, un petit texte où on parlait d'un conflit entre deux personnes dans l'église, cité nommément, et que ça serait quand même bien que ces deux personnes se réconcilient. Ça créerait peut-être un petit malaise. Mais si Paul fait cela, c'est parce que ce conflit, il affecte toute l'église. Et depuis le début de cette lettre, l'apôtre Paul ne cesse de marteler que l'unité, c'est essentiel dans la vie chrétienne, l'unité entre les croyants, l'unité dans la communauté. C'est essentiel parce que nous sommes unis par une cause qui nous dépasse et qui nous rassemble en même temps, la cause de Jésus-Christ. Et c'est un leitmotiv qui revient dans cette lettre, chapitre 2, verset 2, Paul a déjà écrit « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée ». Au chapitre 3, verset 16, il va redire à nouveau « Marchons dans la même direction ». Donc cette unité, elle est capitale pour l'apôtre Paul parce que la désunion entre chrétiens, eh bien, c'est une offense à l'évangile même. C'est une offense à l'évangile même. Et c'est là que le fait d'être imprégné de l'Évangile va faire toute la différence. Imprégné de l'Évangile dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir. Si je suis imprégné de l'Évangile, je ne peux plus penser uniquement en termes de mon propre intérêt. Je ne peux plus penser premièrement en termes de mon propre intérêt, mais réfléchir premièrement en termes de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Or, que nous dit l'Évangile sur les uns et les autres ? Eh bien, il nous dit que l'Église est faite d'hommes et de femmes que Dieu a accueillis par sa grâce, pleinement accueillis, des hommes et des femmes avec qui Dieu s'est réconcilié définitivement. Alors, comment pourrait-on rejeter, nous, quelqu'un que Dieu accepte ? Comment pourrait-on refuser de se réconcilier avec quelqu'un avec qui Dieu s'est réconcilié ? Serions-nous de meilleurs juges que lui ? Ou bien est-ce que nous prétendons que l'offense qui nous a peut-être été faite est plus grave que nos offenses contre le Seigneur qui ont été pardonnées à la croix ? Verset 2, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et par cette petite expression dans le Seigneur, Paul rappelle ce qui doit être à la fois la raison d'être et en même temps la motivation de la réconciliation, l'appartenance commune à Jésus-Christ. En passant, il rappelle au verset 3 que les noms d'Évodie et Saint-Tiche figurent dans le livre de vie, une expression biblique qui nous dit que ces deux femmes sont pour toujours liées à Dieu par Jésus-Christ. Elles vont passer l'éternité ensemble, avec le Seigneur. Alors comment accepter qu'aujourd'hui il y ait une rupture dans leur relation ? Et donc pour l'apôtre Paul, il faut que ça cesse. Il faut impérativement sortir de ce conflit. Mais il sait que ce n'est pas facile de sortir d'un conflit. Et donc, c'est frappant de voir qu'il va demander, verset 3, à quelqu'un qu'il ne va pas nommer. Par contre, son fidèle collègue, on suppose que les Philippiens savaient tous de qui il parlait, son fidèle collègue, il va lui demander d'intervenir dans cette situation et d'aider ses deux sœurs en Christ à se réconcilier. C'est frappant de voir le souci que l'apôtre Paul a du conflit entre ces deux femmes. On pourrait penser que voilà, il est quand même un peu au-dessus de tout ça, lui, le missionnaire itinérant, qui a fondé des églises, qui est persécuté pour sa foi, qui passe son temps à comparaître devant tel ou tel tribunal. Et là, il écrit à Philippe, alors qu'il est en prison, et il se préoccupe qu'Évodie et Saint-Tiche se réconcilient. C'est quand même frappant. Et il va demander à ce fidèle collègue d'intervenir dans cette situation. Mais on l'a dit, pour Paul, il y a un enjeu là, un enjeu très important. Il est frappant de voir donc ce souci qu'il a des deux femmes, mais aussi cette possibilité que quelqu'un dans la communauté puisse leur venir en aide, comme il le dit, leur venir en aide. Et ça nous dit que nous ne devrions pas rester seuls avec nos conflits. Alors c'est vrai en général, c'est vrai a fortiori dans la communauté chrétienne, dans l'Église. Et je voudrais nous poser la question très directement, parce que le texte nous y invite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée, dans cette église, avec qui vous êtes actuellement en conflit ou en froid ? Quelqu'un à qui vous refusez de parler ? Que vous évitez ? Si vous devez absolument le ou la saluer, c'est de façon distante et glaciale. Cette situation n'est pas tolérable. Et de tout cœur, j'espère que, avant de quitter ces lieux, ça serait le mieux, ou peut-être, en tout cas, avant de reprendre bientôt le repas du Seigneur, en signe d'unité et de communion. Vous avez 15 jours, donc, puisque à la RDS, c'est dans 15 jours que nous reprenons le repas du Seigneur. Donc, avant de reprendre le repas du Seigneur, en tout cas, j'espère que vous aurez pris l'initiative de vous approcher de cette personne. Et peut-être de demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être l'un des pasteurs, ou les responsables de l'Église plus largement. Ça peut être un ami, une amie chrétienne en qui vous avez toute confiance et qui pourrait vous aider dans cette situation. Je précise quand même que si le conflit est très grave, si l'offense est très profonde, il est peut-être sage d'emblée de solliciter cette aide extérieure pour pouvoir commencer à emprunter ce qui sera peut-être un long chemin de réconciliation. L'enjeu, c'est l'unité, on l'a vu, l'unité d'une communauté qui est appelée à refléter Jésus-Christ, mais aussi la joie dont Dieu veut nous combler. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est difficile de se réjouir dans le Seigneur lorsque l'Église est divisée par des conflits, même des conflits entre guillemets privés. Ensuite, Paul va évoquer les relations plus largement, et je serai très bref là-dessus, mais en dehors de l'Église, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc au-delà même de l'Église, le chrétien doit se caractériser dans ses relations par la douceur. On a vu bien des fois dans cette lettre aux Philippiens que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'elle nous aligne sur les intérêts de Christ plutôt que les nôtres, eh bien, elle va nous permettre de prendre de la distance face à tout ce qui est pour nous source de tension, de conflit, d'anxiété. Prendre de la distance ne veut pas dire que ça va disparaître d'un coup, mais d'avoir de l'indépendance, de la distance par rapport à cela. Parce que nous sommes appelés à vivre pour lui, et non plus pour nous. Et si nous sommes imprégnés de l'Évangile, eh bien, Paul nous dit ici que nous nous ferons connaître par notre douceur. C'est frappant, de tous les mots qu'il aurait pu choisir, c'est celui-là qu'il choisit, la douceur. Alors est-ce bien le cas pour nous ? Est-ce que nous sommes des doux au travail, dans la famille, sur Internet ? Notre espérance est ailleurs, non plus dans ce monde qui passe, mais dans l'intervention décisive et finale de Jésus-Christ pour faire toute chose nouvelle. Et ça nous amène à notre deuxième point, imprégner de l'Évangile dans les pensées. imprégnée de l'Évangile dans les pensées. Un petit sondage, je vous rassure, je ne vais pas vous demander la réponse à voix haute. À quand remonte votre dernière inquiétude ? J'imagine que ça ne fait pas très longtemps, la dernière fois que vous êtes inquiété pour quelque chose. Moi, du coup, puisque je vous pose la question, il fallait que j'y réfléchisse un peu, et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais inquiété plein de fois pendant la semaine. Alors, que faire face à l'inquiétude ? La deuxième partie du verset 5 me semble importante pour donner le ton. Le Seigneur est proche. C'est un peu une phrase pivot, on pourrait la rattacher à ce qui précède, mais il me semble qu'elle introduit surtout ce qui suit. Le Seigneur est proche et donc ne vous inquiétez de rien, etc. Alors, que veut dire Paul lorsqu'il dit « le Seigneur est proche » ? Est-ce qu'il parle d'une proximité affective ? C'est vrai, bien sûr, que le Seigneur est proche de nous dans ce sens, c'est absolument vrai. Mais ici, il est plus probable que l'apôtre Paul fasse référence au retour du Seigneur. Le Seigneur est proche, autrement dit, son retour est proche. Et ça doit changer notre regard sur la vie. Comment vivrions-nous, par exemple, si nous savions que Jésus allait revenir dans 10 jours ? C'est complètement une hypothèse, évidemment, complètement fictive, mais... qui sait, hein ? Mais comment vivrions-nous si nous savions cela ? J'imagine que nos priorités changeraient et qu'il y a pas mal de choses qui nous inquiètent beaucoup qui cesseraient de nous inquiéter. Et par contre, on se préoccuperait plus utilement de certaines choses qu'on a tendance à laisser un peu de côté. Alors, il ne s'agit pas de plaider ici pour une vision apocalyptique où il faudrait renoncer à toute responsabilité, tout engagement, parce que le retour du Seigneur peut venir à tout moment et donc j'attends les bras croisés qu'ils reviennent. L'apôtre Paul va explicitement dire ailleurs dans le Nouveau Testament que ce n'est pas du tout cette attitude-là qu'il faut avoir. Par contre, il s'agit bel et bien de réaligner ses priorités sur cette perspective, cette espérance de l'intervention finale et décisive de Dieu dans l'histoire. Et donc, quand Paul dit « ne vous inquiétez de rien », eh bien, il est crédible parce qu'il est en prison, on l'a dit. Il n'a pas de certitude sur son sort. Il pourrait être exécuté par les Romains. Donc si Paul, dans cette situation-là, dans sa cellule de prison, nous dit « ne vous inquiétez de rien », eh bien, nous avons des raisons de le prendre au sérieux. Et l'apôtre n'est pas naïf ou irréaliste. Il sait que l'inquiétude guette, elle nous guette tous. Il ne nous dit pas de faire comme si les sujets d'inquiétude n'existaient pas, mais plutôt de les transformer en sujets de prière. Les transformer en sujet de prière. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un email qu'on fait suivre. On clique sur faire suivre ou forward et on met une nouvelle adresse, on fait suivre le message. Et parfois, on fait ça pour dire débrouille-toi avec ça, mais pas toujours. Bien, il me semble que Paul nous invite à faire suivre nos sujets d'inquiétude à Dieu. J'ai ce sujet qui m'inquiète, je ne l'ignore pas, j'en suis bien conscient, je le prends tout à fait au sérieux, mais je le fais suivre à Dieu. Je le remets à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en faisant cela, eh bien, je cherche la solution non plus en moi-même, mais en lui. Et si nous prenions ce réflexe ? Le réflexe de remettre à Dieu nos inquiétudes, et laisser sa paix, verset 7, remplacer ses inquiétudes. Je pense qu'il y a là le potentiel d'une véritable révolution dans nos vies de prière. Si nous avons ce réflexe de prendre nos inquiétudes, de ne pas les ignorer, mais de les faire suivre à Dieu. Et cette paix qui nous est promise, nous dit Paul, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est intéressant parce qu'il ne nous dit pas que nos problèmes disparaîtront, mais il nous dit que Dieu nous gardera fermement attachés à lui pour les vivre avec lui. Et c'est pourquoi les prières que nous formulerons seront confiantes, parce que nous prions dans le cadre de notre relation avec lui. Relation fondée sur son élection, son amour, son pardon. Et pour ces mêmes raisons, nous pouvons prier, verset 7, dans une attitude de reconnaissance. Conscient de tout ce qu'il a fait pour nous, en particulier, avant toute chose, en Jésus-Christ, son Fils, en nous donnant Jésus. Et puis tout ce qu'il a fait pour nous par ailleurs. Son œuvre accomplie et ses promesses pour notre avenir avec lui. Alors cette semaine, prions que Dieu nous aide à faire suivre nos inquiétudes en sujet de prière. Et c'est peut-être une première prière à formuler, c'est « Seigneur, aide-moi à faire cela. Aide-moi à te remettre les choses qui me pèsent, à te remettre mes fardeaux. Et aide-moi à recevoir cette paix. » Et nous pouvons en quelque sorte revendiquer, il me semble, cette paix qui nous est promise ici. Après les inquiétudes, Paul évoque plus largement nos pensées au verset 8 à 9. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, etc. » La question ici est de savoir ce qui nourrit nos pensées, notre esprit. On va tous nourrir nos pensées de diverses choses. Ça, ce n'est pas la question. Tout le monde va... On n'est pas neutre face à quoi que ce soit. Tout le monde se nourrit l'esprit de choses. La question, c'est de quoi est-ce qu'on se nourrit l'esprit? Est-ce que ce sont des choses qui nous rapprochent de Dieu ou est-ce que ce sont des choses qui nous éloignent de lui? Encore une fois, l'idée ici n'est pas de se retrancher, de refuser d'interagir avec le monde qui nous entoure, mais plutôt de s'attacher dans ce monde aux choses qui sont les marques de la présence, de la justice, de l'œuvre de Dieu. Ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui en fait nous donne envie de mieux connaître Dieu, de mieux l'aimer et de mieux aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors ces choses, on va les puiser en premier lieu dans sa parole, mais aussi, plus largement je crois, dans tout ce qu'il a créé de bon, toutes les choses bonnes de la création de Dieu pour lesquelles nous pouvons le remercier. Et là encore, la promesse qui nous est faite pour la deuxième fois dans le texte, c'est la paix de Dieu, la présence de Dieu et de sa paix, verset 9. Verset 7, c'est la paix de Dieu, verset 9, c'est le Dieu de la paix. Alors ça va impliquer une sagesse et une vigilance, ça va impliquer des choix à contre-courant. Mais la question est importante, est-ce que nous allons abandonner tout discernement pour laisser le monde présent façonner notre pensée? Or, notre pensée façonne qui nous sommes. Ce dont nous nourrissons nos pensées, ça va avoir un impact sur nous, ça va avoir un impact sur qui nous sommes. Comme le souligne Jésus, c'est le cœur de l'homme qui le rend impur. C'est ce qui vient de l'intérieur, pas ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur peut nourrir cette impureté. Mais au fond, l'impureté, elle vient de notre cœur pécheur. Et donc, nous allons tous passer notre vie à changer, à être façonnés dans un sens ou dans un autre. La question est de savoir, qu'est-ce qui va nous changer? Est-ce que ce sont les pensées et les pratiques d'un monde qui court à sa perte? Ou est-ce que c'est la pensée et la manière de vivre que Dieu nous invite à vivre? Or, le fait de nous laisser modeler par Dieu, par sa parole, par tout ce qui nous rapproche de lui, ça va avoir des conséquences particulièrement évidentes au jour de l'épreuve. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point qui sera bref, imprégné de l'évangile dans nos circonstances. Dans la Bible, il y a des versets qui ont beaucoup de succès, des versets qu'on trouve sur des calendriers, sur des t-shirts, sur des mugs, sur des bloc-notes. D'autres sont un peu moins fréquents dans ce registre. On attend encore la mug avec Ézéchiel 7:26 par exemple qui nous dit « Il y aura un afflux incessant de mauvaises nouvelles ». On ne l'a pas encore celle-là. Par contre, Philippiens 4:13, « Je peux tout par celui qui me fortifie », fait partie des premiers du hit parade. Et il est indéniable que c'est un verset beau et puissant. Mais que veut-il dire vraiment? Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment ce verset? Très souvent, on l'interprète de façon triomphaliste. « Je peux tout faire avec Dieu. Rien ne m'arrêtera si le Tout-Puissant est avec moi. » Aucun obstacle ne m'arrêtera, je vais pouvoir réussir mon concours, je vais pouvoir monter mon entreprise, je vais pouvoir guérir de ma maladie, etc., etc. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais est-ce le propos de Paul ici? En fait, pas du tout. C'est pas petite nuance, non, c'est vraiment pas du tout ça qu'il dit. Versets 10 et 11, si on regarde le contexte, hein, c'est toujours important dans la Bible de regarder le contexte, versets 10 et 11, Paul remercie chaleureusement les Philippiens pour leur don matériel, qui leur a été transmis par Épaphrodite. Et il va préciser ensuite que sa plus grande joie, ce n'est pas le don en lui-même, mais la solidarité qu'il exprime, le partenariat que ça représente avec son ministère. Alors, il est heureux d'avoir ce don, il le dit d'ailleurs, il dit « j'ai été comblé », etc. Mais la plus grande joie, c'est cette solidarité. Et là, on en arrive donc au verset 12 à 14, et Paul, toujours dans ce contexte-là, dit « je sais vivre dans la pauvreté ». Et je sais vivre dans l'abondance. partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. En d'autres termes, Paul dit aux Philippiens que son bien-être fondamental ne dépend pas de ses circonstances. S'il n'avait pas fait ce don, eh bien Dieu aurait quand même pris soin de lui. Mais il est reconnaissant que Dieu leur ait mis à cœur de lui faire ce don. Mais Dieu est là quoi qu'il arrive, dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la détresse, dans la joie. Quelles que soient ses circonstances, Paul sait que Dieu sera à ses côtés et le fortifiera. Et en fait, ce verset exprime très bien l'idée clé de toute la section, des versets 10 à 20. En Christ, j'ai tout ce qu'il me faut. En Christ, j'ai tout ce qu'il me faut. Ma force vient de lui, ma sécurité me vient de lui, ma confiance me vient de lui, mon espérance me vient de lui. Bref, comme Paul l'a déjà écrit au chapitre 1, Christ est ma vie. Paul est si imprégné de l'évangile que ce ne sont plus ses circonstances qui définissent sa vie. Et c'est une vérité que nous devons entendre et réentendre et méditer jour après jour. Ce ne sont pas nos circonstances qui disent qui nous sommes. Ce n'est pas notre niveau de vie, ni notre niveau d'éducation, ni notre niveau de responsabilité, ni notre apparence, ni notre santé, ni notre niveau de souffrance dans ce monde violent et injuste, ni notre situation familiale, ou que sais-je. Ce qui dit qui nous sommes, qui je suis, c'est que je suis aimé de toute éternité par mon Créateur, qui m'aime depuis dès avant la fondation du monde, nous dit la parole. D'un amour si puissant qu'il a été prêt à venir lui-même dans notre condition humaine, condition de souffrance et monde, le monde déchiré que nous connaissons, il a été prêt à venir lui-même dans ce monde pour vivre la vie de justice que nous n'arrivons pas à vivre et subir à ma place, à la croix, la condamnation de Dieu que je méritais, que nous méritions en raison de nos offenses. Il l'a subi à notre place, pour que nous n'ayons plus à la subir. Puis il a vaincu la mort au troisième jour et nous offre une vie nouvelle, transformée, réconciliée avec Dieu. Voilà ce qui me définit. Voilà ce qui nous définit si nous avons reçu ce don qui nous est offert en Jésus-Christ par la foi. C'est une vie bouleversée dans son orientation, dans ses objectifs, dans ses priorités. Alors, dans ce monde présent, nous allons continuer à rire et à pleurer, à souffrir et à nous réjouir. Mais notre perspective, c'est la vie avec lui, hier, aujourd'hui et éternellement. Christ est ma vie. Alors laissons Dieu nous imprégner de lui, dans nos relations, dans nos pensées, dans toutes nos circonstances. Amen.